Chat perché par Richard Keller. Chapitre 1. Ce n'est pas le but de la promenade qui est important, mais les petits pas qui y mènent. Il reste toujours un peu de parfum à la main qui donne des roses. Deux phrases sibyllines pour débuter le récit de l'histoire de Mélanie. En ce premier jour de février, les cloches de la chapelle du château sonnaient. Ce soir-là, un carillonneur virtuose se produisait en concert. Sur les toits de la vieille ville, les lumières projetaient une ombre blafarde. Un homme descendait le long d'un pan. Malgré son agilité, il avançait prudemment. Les tuiles devenaient glissantes avec le givre qui se posait sur les toitures. La cité était belle sous le froid. La neige tant espérée tomberait dans la nuit, et cela ferait le bonheur des vacanciers. Pendant un mois, ce serait le chassé-croisé dans les stations. La zone A croiserait dans la vallée la zone C, qui monterait vers l'or blanc, pendant que la zone B amortirait son forfait sur les pistes. Toute l'activité de la montagne serait suspendue aux nouvelles de la météo, avec une obsession, le taux de remplissage et l'enneigement du massif, l'un étant tributaire de l'autre. L'homme sauta sur un balcon. Il tira le battant d'un volet et disparut à l'intérieur d'un logement. Il posa son sac et refit le chemin inverse. Le clocher résonna de ses 70 cloches dans le vieux quartier. L'éclairage offrait une vue splendide sur tout l'édifice. Il y avait des effets de couleurs sur les tours. Les façades illuminées ressemblaient à un décor de carte postale. Après 10 minutes, le funambule réapparut avec un autre sac, qu'il posa dans l'appartement et repartit aussitôt. Il effectua 5 fois le même rituel. Au 5e voyage, il ne ressortit. Le maître achevait sa démonstration. Le public conquis applaudit. Il convient de dire que l'activité de carillonneur concertiste est difficile. Un carillon possède entre 23 et 73 cloches. Le musicien se doit d'apprivoiser le clavier d'abord. Il faut être un virtuose pour s'adapter à la diversité des instruments. Les spectateurs enchantés entendirent des pièces de Menotti, Barber et Nino Rota. Ce fut un régal pour les oreilles. La neige commençait à tomber. Les flocons, pris dans les raies de lumière des projecteurs, donnaient au lieu un aspect féerique. Les reflets cristallins se teintait de nuances insoupçonnées. Le ciel décida d'offrir de la blancheur aux touristes des cimes. Il était 20 heures. Les magasins avaient baissé les rideaux. Seuls subsistaient quelques vitrines éclairées. Dans une masure située en contrebas sous le donjon du château, un homme transportait de gros sacs poubelles sur son dos. Il sortit de la vieille bâtisse et pénétra dans une maison rénovée par une entrée qui donnait sur une arrière-cour, à l'abri des regards indiscrets. Il ressortirait un peu plus tard et disparaîtrait dans la nuit. La pellicule blanche effacerait ses pas. Il neigea toute la nuit. Les rues désertes étaient blanches. Centimètre après centimètre, l'hiver prenait ses quartiers. Au petit matin, la couche se mesurait avec l'épaisseur des deux mains. Les employés municipaux faisaient la grève au sujet des heures supplémentaires. Il s'agissait d'un conflit larvé qui se poursuivait depuis des mois. Avec cette chute qui survenait le week-end, il ne subsistait aucun espoir d'un déblayage des rues avant lundi. Dans son appartement douillet, à la périphérie des secteurs historiques, l'adjudant-chef Sagol préparait le déjeuner pour son épouse. Il fêtait hier soir ses 20 ans de mariage. Sa femme avait porté son choix sur un restaurant branché pour célébrer leurs noces de porcelaine. Juliette et Léo dînèrent au gourmet mandarin, l'anniversaire coïncidant cette année avec le jour de l'an chinois. Léo aimait bien la cuisine exotique, mais il détestait les baguettes. Malgré des années de fréquentation assidue des restaurants asiatiques, il ne savait toujours pas se servir de ses fichus instruments longs et ronds. Pour faire plaisir à Juliette, il fit le pitre 5 minutes avec les rouleaux de printemps. la fourchette vint à la rescousse du maladroit. À l'occasion du nouvel an, le gourmet mandarin confectionnait un menu composé de 9 plats typiques. Bien sûr, les incontournables rouleaux de printemps, du porc laqué, accompagné de riz aux 8 trésors, champignons, saucisses sèches, poulet, crevettes séchées et pousses de bambou. Du poulet à l'écorce d'orange, plat originaire de la région du Sichuan, des beignets au sésame. Un vin s'imposait pour accorder la boisson au mets délicieux. Il fallait garder la saveur des épices tout en apaisant l'agression pour un palais occidental. Léo, en connaisseur, proposa à son épouse un Gewürztraminer de derrière les fagots. À la fin du repas, il y eut un spectacle avec des dragons cracheurs de feu et des pétards furent allumés par des convives d'origine chinoise. Ce fut une soirée originale. Les cracheurs de feu sortirent dans la rue devant l'établissement. C'était une scène surréaliste, les dragons rouges évoluant sur un tapis blanc. Léo offrit 2 cadeaux à son amour, un pendentif avec une opale et fit livrer un bouquet de vin rose rouge. Madame Sagol, heureuse, adorait les cadeaux et son Léo avait fait fort ce soir-là. La cloche de la chapelle sonnait minuit lorsque le couple rentra chez lui, bras dessus, bras dessous. Juliette se remémorait leur première rencontre. Léo lui demanda « À quoi penses-tu, chérie ?» À notre première rencontre, Léo. Tu t'en rappelles? Oh oui, c'était à la fête d'un village par chez nous. Je ne me souviens plus du nom. Je peux te le dire. Il s'agissait de Saint-Maurice, le soir du concours des menteurs. Je n'ai pas écouté les menteurs ce soir-là, mamie. J'ai écouté mon cœur. Moi aussi, j'avais repéré un joli garçon et j'ai attendu tout l'après-midi avant qu'il ne vienne à moi. Tu ne me l'avais jamais dit que tu m'avais remarqué. Un petit secret de femme. Aujourd'hui, après plus de 20 ans d'amour, je me confesse. Ils s'embrassèrent. Les flocons s'étaient posés sur les cheveux blonds de Juliette, et l'on pouvait dire, sans se tromper, que les yeux des époux ne brillaient pas à cause de la neige, mais grâce à leur amour. Au réveil, l'époux amoureux sortit acheter des croissants. Il connaissait une boulangerie où le pain cuisait à l'ancienne au feu de bois. Le dimanche matin, il aimait sortir tôt et déambuler dans les ruelles désertes. Le sol enneigé rajoutait une touche hivernale et mélancolique à son trajet. La boulangère, Madame Lurand, une femme d'une 50aine d'années, un peu rondelette, trouvait toujours un mot gentil pour les habitués. Léo prit place dans la file. Dès l'ouverture, le monde se bousculait dans le minuscule magasin. « Bonjour, Monsieur Sagol. « Le bon Dieu est en train de dégivrer son congélateur. Qu'est-ce que je vous vends sitôt ?»« Comme d'habitude, Madame Lurand, 2 croissants pur beurre et un pain de campagne. »« Vous êtes taquin. Mes croissants ne connaissent que le bon beurre. »« Vous donnerez le bonjour à Juliette. Ce sera fait. Mes amitiés à Loïc. »« Au revoir, messieurs, dames. »« Bonne journée à vous, Monsieur Sagol. Mettez-vous au chaud. » Léo aimait bien ce contact chaleureux avec les commerçants du quartier. Il ratait rarement sa petite sucrerie du dimanche, Juliette monopolisant les autres jours de la semaine. Dans les rues adjacentes à la boulangerie, des chats erraient en quête de nourriture. Ils rasaient les murs en évitant soigneusement de se mouiller les pattes dans la neige. De temps à autre, un mistigris plus hardi, ou chassé par ses congénères, se hasardait au milieu de la chaussée. Il fallait voir le spectacle de ces carnassiers peu habitués à ce genre d'exercice. La société des chats possédait en son sein toutes sortes d'individus. Les plus téméraires déambulaient, le port altier, sans craindre les passants et les frimas de l'hiver. D'autres, plus timides, se cachaient à la première alerte. Depuis l'aube, tous attendaient leur bienfaitrice. Il y avait là la concentration d'une douzaine d'unités. Des anciens combattants, disposés au poste stratégique, guettaient l'arrivée d'une amie. Ils arboraient des cicatrices à faire pâlir les jeunes chatons. Les oreilles raccourcies par quelques mâles belliqueux, le poil absent sur quelques centimètres, telles étaient leurs blessures de guerre. Aujourd'hui, lorsque quelques bellâtres manifestaient des intentions guerrières, ils battaient prudemment en retraite. l'expérience s'avérait mère de sûreté. Au fil des minutes, la colonie s'impatienta. Aucun subside n'arrivait. L'attente était longue quand il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Il neigeotait. Les flocons retardataires rejoignaient le reste de la famille, déjà installée sur le grand tapis blanc. S'égrenait le temps. Des passants remarquèrent la troupe affamée. Certains se plaignaient de l'envahissement du quartier par ces hordes sauvages et n'hésitaient pas à demander l'éradication de la colonie. Heureusement, d'autres étaient là pour vanter les bienfaits de la présence de ses amis de l'homme. Comme en politique, le peuple était partagé. L'amie, la confidente des chats, se nommait Mélanie Pralon. Cette vieille dame nourrissait les félins dans les ruelles autour de la cathédrale et du château. Elle habitait un appartement dans une maison construite au XVIIIe siècle. Mélanie était organisée. Elle effectuait sa tournée avec une glacière. Elle plaçait à l'intérieur des gamelles un sac de croquettes et deux bouteilles d'eau. Elle récupérait les anciennes écuelles et les remplaçait par d'autres toutes propres. Elle se débrouillait pour disposer les récipients à l'abri des regards et des indélicats. Il neigea encore dans l'après-midi et dans la nuit du dimanche. Dans les rues piétonnes, une couche d'au moins 25 cm recouvrait le pavé. À l'aplomb des bords de toiture, l'épaisseur était plus importante. Des habitants courageux dégageaient un passage devant leur porte. Il fallait bien mettre cette neige quelque part. Elle se retrouvait en tas, quelques mètres plus loin, à côté des poubelles où rôdaient les chats affamés. Les habitants de la vieille ville forment une communauté assez disparate, dans laquelle on peut discerner quatre catégories principales. Les anciens, qui sont la mémoire des lieux, les jeunes couples, qui viennent de se mettre en ménage, les cadres supérieurs et commerçants aisés, les marginaux. Les anciens occupent bien souvent un appartement depuis longtemps. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un héritage familial. Les parents et parfois les grands-parents habitaient déjà l'immeuble. Les jeunes couples apportent du sang neuf et de l'énergie au quartier. Ils ont la folie de leur jeunesse. Ils sont venus là parce que les parents ont un bien ici ou parce que les loyers sont plus abordables. Les cadres supérieurs et les commerçants aisés font partie des occupants les plus exigeants. Ils ont choisi d'habiter le secteur pour des logements ayant un cachet historique. Ils ont aménagé de grands espaces avec des poutres apparentes et se sont fait une spécialité dans le domaine de la décoration intérieure. Ils sont très attentifs à leur qualité de vie. Les marginaux squattent des masures abandonnées. Ils n'ont que de maigres moyens de survie et sont généralement squelettiques, avec des tenues excentriques et provocantes. Ils sont souvent accompagnés de chiens et transportent avec eux un bric-à-brac digne de Zézette, la femme du Père Noël. Tout ce beau monde cohabite dans une harmonie précaire. Mélanie, avec ses chats, fait le lien entre tous. Elle connaît chacun par son prénom et ne se préoccupe pas du pourquoi ni du comment des choses. Plusieurs voisins s'étonnèrent de voir tous ces animaux en quête de pitance. La chose étant inhabituelle, la neige a dû perturber leurs habitudes, se disait Loïc Liorant, en passant ce matin-là vers 3 heures pour aller au fournil. Il n'avait pas vu les félins aussi excités depuis longtemps, même au plus fort de l'été ou à la saison des amours. Il ne se comportait pas ainsi. Justine Coinon sortit vers 5 heures pour prendre son service à la gare SNCF. Elle aussi remarqua une effervescence inaccoutumée. Elle croisa Clémentine Michaud qui lui en fit la remarque. Les minets de Mélanie ont faim. Un vieux matou, qui en avait vu bien d'autres, s'approcha de chez Rioux le boucher. Nestor Rioux était un homme massif, le visage rougeau, aussi doux et aimable qu'il était rondouillard. Il n'avait qu'une seule haine, les chats. La faim incitait le greffier à prendre des risques. Il se rapprocha de la devanture. Nestor raccompagna une cliente sur le pas de sa porte. Lorsqu'il aperçut le gros minet, son sang ne fit qu'un tour. Il prit la pelle et s'élança à la poursuite de l'intrus. Le sol gelé réussit mieux au fuyard qu'à son poursuivant. Malgré le gros sel qu'il avait jeté sur toute la longueur du trottoir, ce dernier s'aplatit de tout son long sur le pavé verglacé à cet endroit. Il fut impossible au boucher de se relever. Il maudissait Mélanie et tous les chats de la création. Il dut se rendre à l'évidence, il s'était cassé quelque chose. Des voisins l'aidèrent à se relever. Il souffrait beaucoup de la jambe gauche au niveau du genou. Il réussit à rentrer dans son magasin sur une jambe grâce aux épaules secourables de Loïc. « Alors Nestor, tu te places dans le patinage artistique ?» lui lança Loïc. « Suis pas d'humeur. La Mélanie avec ses bestioles, elle m'a bousillé la guibole. Et toi, avec ta phobie des gros minets, tu voudrais les passer aussi sur le bio ?» lui répondit le boulanger. « Tu veux que j'appelle le Toubi ?»« Y a pas le choix. Prends le téléphone et appelle le docteur Sahuc. Je ne peux pas bouger de la chaise. » Nestor Rioux était assis au milieu du magasin. Il était cerné par des andouillettes, des jambons, des saucissons et quelques clientes curieuses qui compatissaient à son malheur. « Loïc, j'ai une faveur à te demander ce matin. Je t'écoute, mon chaton. Arrête, tu me fais monter la tension. Ferme ma boutique, s'il te plaît. Mesdames, le blessé a besoin d'être seul avec moi. On ferme. » Les clientes parties, Loïc demanda à son ami s'il avait besoin d'un coussin pour sa jambe. « Je ne la touche pas, car elle me fait très mal au niveau du genou. J'ai probablement pété un ligament. Et Sahuc, qu'est-ce qui branle, bon Dieu ? Alors, il n'y a pas plus de 5 minutes que je l'ai appelé. Il a dit qu'il serait ici dans un quart d'heure. « Ouais, mais ça paraît long. Dis donc, t'as vu la Mélanie ces jours-ci ? Non, mais tu ne vas pas l'enguirlander pour ta course malheureuse au Mistigris. C'est ta faute. T'as plus 20 ans, mon vieux. Merci pour le vieux. Toi, tu as 6 ans de plus que moi, l'ancêtre. » Le docteur Sahuc arriva enfin. Il frappa à la porte. Loïc le fit pénétrer dans la boutique. « Bonjour, messieurs. Petit accident de ski, monsieur Rioux ?» Le boucher grommela quelques mots. « Ouais, comme dit mon ami Loïc, j'ai patiné, et puis voilà. Bon, regardons ça. Vous avez mal où exactement ?»« Ici, docteur. » Il désigna son genou. Sahuc remonta le pantalon du boucher et essaya de faire plier l'articulation. « C'est grave, docteur ?» demanda Nestor. « Les radios le diront, mon cher. Mais je vous parie un roast beef que ce sont vos ligaments qui ont fait les frais de vos exploits hivernaux. Il vous faut aller au service des urgences de l'hôpital. » « Mais, docteur, je n'ai personne pour tenir la boucherie. Vous voyez bien que vous ne pouvez pas tenir debout, mon pauvre. Il vous faudra trouver une autre solution. » Loïc émit une idée. « Mon neveu pourrait te dépanner le matin. Il sait désosser parce qu'il travaille chez un paysan qui commercialise ses bêtes en vente directe. Veux-tu que je l'appelle ? C'est pas de refus, car la boutique est pleine à craquer. Ça me ferait une sacrée perte. Ne tardez pas pour aller à l'hôpital, car plus vous attendrez et plus compliqué sera le travail des médecins. Merci, docteur, et à bientôt. Au revoir, messieurs, et bonne journée malgré tout. » Le docteur Jonas Sahuc avait pris tout naturellement la succession de son père il y a 10 ans. Ayant grandi dans le quartier, il en connaissait bien les habitants. Pour rien au monde, il ne serait parti ailleurs, et ses patients le lui rendaient bien. C'était une grande famille. Il avait suggéré à plusieurs reprises à l'ami Nestor de faire un peu de régime afin de perdre du poids. Malgré ses conseils, le boucher n'en faisait qu'à sa tête, surtout après le décès de son épouse, partie en quelques semaines d'un cancer du sein. Il assumait son veuvage depuis 2 ans maintenant. Lui aussi avait succédé à son père derrière l'étal. Il prenait plaisir à dire que chez les Rioux, c'était comme avec les archevêques, de père en fils. Le docteur venait d'avoir 40 ans. Il était l'époux comblé d'une Irlandaise rencontrée lors d'un périple entre copains de l'autre côté de la Manche. Elle se prénommait Maureen et affichait 5 ans de moins que son époux. Ils adoraient leurs 2 enfants, qui ne passaient pas inaperçus dans le quartier. Léa, rousse comme sa maman, venait de fêter ses 7 ans, et Léo, son frère rouquin, 6 ans. On ne les voyait que rarement l'un sans l'autre. Maureen était traductrice pour une maison d'édition, ce qui lui permettait de travailler à domicile en s'occupant de ses enfants. Mistigris, le vieux matou, surveillait les alentours depuis un soupirail. Il distança sans difficulté le boucher et rit bien dans ses moustaches en voyant son ennemi s'étaler de tout son long sur le trottoir gelé. Dans sa fuite, le gros minet sortit ses crampons. Toute griffe dehors, il négocia son virage sur les chapeaux de roue. L'adversaire n'était pas de taille à le suivre. Alors, il s'arrêta un peu plus loin. Maintenant, il scrutait les allées et venues devant la boutique de l'éclopé. Il vit d'abord le boulanger, qui s'était porté au secours de Nestor. Le brave homme donnait de temps à autre au chat un morceau de jambon ou de pizza. Ça doit être grave, pensa-t-il. Les vieilles, réfugiées dans la boutique, s'éclipsèrent un moment après, et le docteur rentra dans le magasin. Mistigris, curieux, aurait bien voulu voir à l'intérieur. Mais Loïc baissa les rideaux rouges, spectacle terminé. Il vit ressortir Jonas avec son cartable et le compara à un écolier attardé. Si ce n'est pas malheureux d'être si grand et d'avoir toujours un cartable. Ces humains étaient vraiment bizarres. Au bout de la rue, un poteau amovible barrait l'accès à la rue piétonne. Une ambulance arriva, son gyrophare bleu tournant à plein régime. Le matou se disait que décidément ce matin ne s'annonçait pas comme les autres. Le chauffeur avait un petit boîtier électronique, il l'actionna et le plot s'enfonça dans le sol. L'ambulance démarra lentement sur la neige verglacée. Le crissement des pneus sur le pavé fit fuir deux de ses congénères. Du haut de son soupirail, Mistigris observa les deux ambulanciers sortir un chariot du véhicule. 2 minutes plus tard, le boucher apparut couché sur le brancard à roulettes. Les deux hommes eurent du mal à hisser sa carcasse à l'intérieur de l'ambulance. Il pesait son quintal, le Nestor. La voiture fit demi-tour. Le crissement des pneus fut désagréable aux oreilles du vieux combattant. Il rentra dans la cave. Quelques minutes plus tard, le Ramina Grobis se posta sur son soupirail. La faim le tenaillait. Il avait perdu l'habitude de ne pas manger pendant plusieurs jours. Mélanie avait distribué les dernières croquettes vendredi matin. Cela faisait plus de 3 jours. Ce n'était pas dans ses habitudes. Mistigris ne ronronnait plus. Il ronchonnait après sa pourvoyeuse en se demandant pour quelle raison elle ne venait pas le voir. Il aimait beaucoup la vieille dame. Il était l'un des rares à accepter ses caresses et à se frotter à ses jambes. Il réfléchissait. Comment faire pour pallier à l'absence de nourriture ? Il faudrait alerter les collègues. Je vais provoquer une réunion de quartier. Nous irons en délégation devant les commerces en espérant être entendus. Le matou partit à la rencontre de ses amis. En quelques minutes, une trentaine d'individus se retrouvèrent devant la boulangerie. Ginette Lioran, surprise par le nombre élevé de chats devant sa porte, en parlait avec ses clientes et clients. Il se passait quelque chose d'anormal dans le coin. Mistigris défilait en tête de cortège. Loïc fit un peu d'humour. Il dit à une bigote « C'est encore une manif. Un coup de la CGT. Ils recrutent même les vieux matous retraités. » Ginette en conclut qu'ils avaient faim. « Loïc, tu devrais aller voir s'il n'y a pas quelques déchets chez Nestor. Ça fait plusieurs jours que nous n'avons pas vu Mélanie. C'est pour ça que les chats sont là. Ils veulent manger. J'y vais de ce pas. » Il revint un moment après, avec un seau et des petits morceaux de viande qu'il jeta sur la neige. « Je crois qu'on devrait aller chez Madame Pralon. Il ne faudrait pas qu'elle soit malade. Vas-y, Ginette, je garde la boulangerie et les chats. » « Entendu. À tout de suite, Loïc. » Ginette marchait doucement. Elle n'aimait pas la neige et le verglas. La maison, où se trouvait l'appartement de Mélanie Pralon, se situait à 200 mètres de la boulangerie. Elle poussa la lourde porte, alluma la minuterie et monta jusqu'au 3e et dernier étage. Puis, appuya sur la sonnette, aucune réponse. Elle frappa avec ses poings sur la vieille porte en chêne, sans succès. Pas âme qui vive de l'autre côté. La boulangère battit en retraite et se dit qu'il fallait alerter les pompiers ou la police. Elle allait en parler avec son mari. De retour à l'échoppe, Ginette fit part de son inquiétude. « Il y a un problème chez Mélanie. Aucune réponse. Il faut faire quelque chose, Loïc. J'appelle la police. »